RFI 23h30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Et toute l'actualité africaine, c'est avec Sylvie Berruet. Bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. À la une de cette édition, les relations houleuses entre Paris et Alger. Le Premier ministre français François Bayrou menace de remettre en cause les accords de 1968 avec l'Algérie. Alger ayant ces dernières semaines refusé de laisser entrer sur son territoire plusieurs de ses ressortissants expulsés de France. En quoi consistent-ils ces accords? Nous y reviendrons dans ce journal. En Tunisie, 8 personnes condamnées à la peine de mort pour l'assassinat en 2013 de l'élu de gauche Mohamed Brahimi. Dans l'actualité également, la fin de la visite en République démocratique du Congo du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, appelle à un cessez-le-feu immédiat dans l'est du pays. Le Cap en Afrique du Sud, capitale financière du monde en marge du G20 qui se tient en l'absence du ministre des Finances des États-Unis, a lieu la 5e édition de Finances en commun qui regroupe plus de 500 banques de développement. Ce sera le dossier d'Afrique Soir. Et puis cette affaire qui ébranle le football camerounais, séquestré par son club. Parfait Djoumeni, le gardien de but de Victoria United de Limbé, aurait subi des sévices pendant 3 jours. Enfin, musique et ce soir, coup de projecteur sur la chanteuse ghanéenne Florence Adouni. Ce sera le choix de Pierre Vallée. Voilà pour le sommaire. François Bayrou met la pression sur l'Algérie quelques jours après l'attentat de Mulhouse dans l'est de la France, commis par un ressortissant algérien sous OQTF, refusé selon la France à 14 reprises par l'Algérie. Et après un comité interministériel sur le contrôle de l'immigration, le Premier ministre français lance un ultimatum à Alger pour réappliquer les accords migratoires spécifiques entre les deux pays, des accords signés en 1968.
La France va demander au gouvernement algérien que soit réexaminée la totalité des accords et la manière dont ces accords sont exécutés. Nous allons faire cette démarche en donnant 1 mois, 6 semaines pour que nous puissions les réexaminer. Et pendant ce temps, va être présentée au gouvernement algérien une liste, j'allais dire, d'urgence de personnes qui doivent pouvoir retourner dans leur pays et que nous considérons comme particulièrement sensibles de ce point de vue-là. Nous pensons, nous voulons qu'on trouve des voies pour que, enfin, les accords soient respectés et que la réadmission puisse être possible. Si ça n'était pas le cas, le gouvernement français considérerait que les avantages particuliers qui sont consentis au terme de ces accords devront être remis en cause.
Alors, des propos recueillis par Raphaël Delvolvé. Revenons à présent sur ces accords entre la France et l'Algérie. Ils datent de 1968, ils ont été révisés à 3 reprises et ils confèrent aux Algériens un statut particulier en France. Bonsoir Paul Orgery.
Bonsoir Sylvie.
Ces accords vieux de près de 60 ans que François Bayrou menace de dénoncer permet aux citoyens algériens de se rendre sur le territoire français et ce, sans visa.
Oui, un petit rappel historique d'abord. En 1968, la France est en plein boom économique et a donc besoin de main-d'œuvre pour se développer. L'Algérie et l'ancienne puissance coloniale signent donc un accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles. Concrètement, le texte écarte les Algériens du droit commun et leur entrée sur le territoire français est facilitée. Ils n'ont pas besoin de visa, mais d'un certificat de résidence pour Algériens, valable 5 ans et délivré à la condition de trouver un travail 9 mois après leur entrée sur le territoire. Ce qui leur permet de s'établir librement en France pour exercer une activité économique. Par ailleurs, ce statut leur facilite l'accès à un titre de séjour de 10 ans. Contrairement aux autres nationalités qui doivent résider 5 ans dans l'Hexagone, les Algériens peuvent le demander au bout de 3 années. Mais voilà, le texte a été modifié à 3 reprises, au gré des aléas politiques et des relations entre les deux pays, et les conditions d'entrée sur le territoire français sont devenues de plus en plus restrictives. Aujourd'hui, il ne reste en réalité plus grand-chose de l'accord initial. Un visa ayant été imposé et les procédures administratives s'étant multipliées pour l'entrée des Algériens en France, bien qu'ils en gardent quelques privilèges.
Paul Orgery, et puis j'ajoute que le Sénat algérien suspend ses relations avec le Sénat français pour protester contre la récente visite de son président Gérard Larcher au Sahara occidental. Le Sénat algérien dénonce une visite irresponsable et provocatrice. Et par Par ailleurs, le Maroc a annoncé ce mercredi l'achat de 168 trains, dont 18 TGV pour environ 2,8 milliards d'euros, notamment aux entreprises françaises Alstom. Tout cela pour en prévision du Mondial de football 2030. En Tunisie, le verdict est tombé dans l'assassinat en juillet 2013 de l'ancien député Mohamed Brahmi. 8 personnes ont été condamnées à la peine capitale. Elles ont été reconnues coupables d'avoir commis un crime visant à changer la nature de l'État et d'avoir incité au désordre sur le territoire tunisien. Une 9e personne en fuite a, elle, été condamnée à 5 ans de prison. Ouda Ibrahim.
Il était un élu de la gauche nationaliste tunisienne à l'Assemblée constituante de la Tunisie, représentant Sidi Bouzeid, ville symbolique qui a lancé la flamme de la révolte tunisienne contre le pouvoir de Ben Ali. Très critique de la manière de gouverner des islamistes, Mohamed Brahmi avait été abattu en juillet 2013 devant chez lui le jour de la fête nationale et en plein mois de Ramadan par 2 hommes à moto sous les yeux de son épouse et de ses enfants. Des djihadistes liés à l'État islamique ont à l'époque revendiqué son assassinat, ainsi que celui de Choukri Belaïd, autre figure influente de la gauche tunisienne. L'assassinat de Mohamed Brahmi à peine 6 mois après celui de Choukri Belaïd, également tué devant chez lui, avait choqué le pays et provoqué une grave crise politique qui avait conduit à la démission du chef du gouvernement. Il a forcé Ennahda à céder le pouvoir à un gouvernement de technocrates. Ennahda avait été accusé d'avoir fait disparaître son dossier judiciaire. Des manifestations ont eu lieu à Tunis en permanence pour réclamer justice.
Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 23h36 à Kinshasa.
RFI à Kinshasa. 105 FM.
Il faut un cessez-le-feu rapidement, c'est le plaidoyer du procureur de la CPI et la Cour pénale internationale depuis la RDC Kinshasa, où Karim Khan a bouclé ce soir sa visite dans le pays où son bureau enquête sur de graves crimes commis dans l'Est congolais depuis l'offensive de la rébellion du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Arrivé à Kinshasa lundi soir, il s'est entretenu avec les autorités du pays, dont le président Tshisekedi, hier soir, des membres du gouvernement ainsi que des hauts magistrats et des associations des victimes. Et avant de quitter la capitale, il s'est exprimé au micro RFI de Pascal Mounegua.
Toutes les réunions que j'ai eues étaient confidentielles, mais elles ont été constructives. Concernant les événements qui se passent dans l'Est, mes équipes sont déjà actives depuis le mois d'octobre. Le président Tshisekedi va accueillir une conférence ici à Kinshasa au mois d'avril pour la création d'une cour pénale internationale spéciale sur la RDC. Donc nous sommes en train d'envisager une nouvelle approche holistique pour traiter ces cycles de violence que nous voyons en RDC. Ce qui est en train de se passer maintenant dans l'Est crée de l'insécurité. Nous sommes sérieux dans ce que nous faisons, nous devons avoir des résultats ensemble. Je réalise que chaque jour qui passe est très difficile pour les populations qui habitent cette zone de conflit. Nous devons chercher un cessez-le-feu sans délai. Nous avons besoin de la paix pour créer un espace et le temps nécessaire pour que ces nouvelles initiatives soient ressenties par les populations. Nous allons faire de notre mieux pour gagner la confiance de la population.
Et sur le terrain, Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika, la tension commence à retomber. Il y a une semaine, l'arrivée massive de militaires congolais en provenance d'Uvira au sud Kivu avait semé la psychose dans la ville. Ces soldats s'étaient repliés à Kalemie, situé à environ 380 km d'Uvira, face à l'avancée de l'AFC M23. Alors pour rassurer la population et remonter le moral des troupes, le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo s'est rendu sur place il y a 3 jours. Il a insisté sur la nécessité de restaurer la discipline au sein de l'armée et d'assurer la sécurité dans la ville. Patient Ligodi.
Plus de 2500 militaires ont débarqué à Kalemie par voie lacustre en provenance d'Ovira en raison de l'avancée de l'AFC M23. Selon des sources locales, ceux qui étaient armés ont été désarmés dès leur arrivée au port. Parmi eux, on dénombre au moins 200 blessés. Ces soldats sont actuellement regroupés au camp militaire marin où ils sont encadrés et réarmés moralement, selon le maire de Kalemie, David Mukeba, qui a confirmé à RFI qu'ils seront bientôt redéployés au front. Dans la ville, le dispositif sécuritaire a été renforcé, notamment autour du port et dans les points stratégiques. La sécurité est sous contrôle sur toute l'étendue de la ville, a assuré le maire. Les autorités locales tentent également de rassurer la population, affirmant qu'elle reste sur place et ne compte pas quitter la ville. Sur le plan économique, Les activités portuaires ont repris, mais la circulation des marchandises reste perturbée. Des pénuries commencent à se faire sentir sur le marché, notamment pour certains produits alimentaires provenant de Goma et Bukavu via Uvira. Cette rareté a entraîné une hausse des prix. Face à cette situation, une réunion est prévue ce jeudi au gouvernorat. Elle rassemblera les autorités locales, la Fédération des entreprises du Congo et la société civile.
En bref, le Nigeria et la fraude dans le secteur bancaire qui explose. Elle a enregistré une hausse de 196% au cours des 5 dernières années. Les paiements sur Internet avec usurpation d'identité caracolent en tête des délits recensés par un organisme régulateur de ce secteur.
Afrique Soir sur RFI.
Sauvegarder un modèle économique inclusif pour les plus vulnérables, c'est l'appel lancé par Cyril Ramaphosa au ministre des Finances du G20, réuni aujourd'hui au Cap en Afrique du Sud. Un mois après l'investiture de Donald Trump, le président sud-africain exhorte les grandes puissances à garantir les intérêts des plus faibles. Et en marge de cette réunion se tient le sommet Finance en commun. Il regroupe plus de 500 banques de développement. Ces banques financent notamment des projets d'éducation, de santé ou encore de lutte contre le changement climatique. Valentin Hugues.
Des défis exposés tout au long de cette première journée. Voici une phrase entendue aujourd'hui lors d'une table ronde. L'aide au développement est attaquée, mais le réchauffement climatique nous rappelle son importance. Ces menaces pour l'aide au développement, elles s'illustrent par exemple par la position américaine et l'arrêt de toutes les aides décidées par le président Donald Trump. Mais ici, au sommet, personne ne se veut fataliste. Ces banques de développement réunies au Cap doivent justement trouver des solutions pour répondre à ce défi en renforçant leur partenariat, en travaillant davantage main dans la main comme une réelle coalition pour créer une nouvelle architecture financière durable, notamment pour lutter contre le réchauffement climatique, sujet mondial et donc qui demande de la collaboration entre États. La lutte contre le réchauffement climatique, c'est un défi de taille pour ces banques de développement qui financent de nombreux projets en ce sens. Et puis ce sommet, c'est aussi l'occasion pour les banques de développement du continent africain de faire entendre leur voix. Nardos Bekele-Thomas, présidente de l'Agence de développement de l'Union africaine, a d'ailleurs conclu son intervention aujourd'hui en rappelant le besoin pour la stabilité de créer une banque centrale africaine et un fonds monétaire africain. Valentin Hugues, Le Cap, RFI.
Et à l'heure où l'aide au développement est en débat à travers le monde, l'économiste et ancien premier ministre béninois Lionel Zinsou reste optimiste. Selon lui, les banques de développement seront un ressort efficace face aux coupes des États dans l'aide au développement. Il était l'invité de Nicolas Sûr dans Afrique Midi.
C'est les acteurs les plus importants pour des défis comme financer la transition énergétique, être capable de décarboner l'économie. Parce que ça demande des infrastructures, souvent des projets de long terme, des projets à 10-20 ans, et ce sont des banques spécialisées dans le long terme avec des coûts plus bas, parce qu'elles sont extrêmement respectées. Elles n'ont jamais de défauts. Et donc, c'est les seules à distribuer, et on en a maintenant de plus en plus en Afrique, qui sont en plein développement, qui ont, dans les 3-4 dernières années, doublé leur capital. Donc, ce sont des instruments pour s'occuper des grands défis de long terme. La bonne nouvelle, c'est qu'elles vont assez bien. Là encore, évidemment, si les États-Unis décident de couper les vivres à la Banque mondiale et à durcir les positions du Fonds monétaire international, il va falloir que les Européens, les pays du Golfe et autres les remplacent s'il faut les remplacer, parce qu'on ne peut pas se passer de ces banques de développement.
Mais l'aide publique au développement devient aussi un sujet de crispation politique dans les pays du Nord et de l'Union européenne. La France annonce créer une commission pour évaluer son APD après une salve de critiques dans la presse conservatrice. Est-ce que ce genre de discours qui se généralise au Nord vous inquiète ?
On fait comme si les pays pauvres étaient pauvres par leurs défauts et s'ils n'avaient jamais été dominés, jamais été colonisés, etc. Tout le monde a des problèmes budgétaires, donc on est obligé de faire des coupes budgétaires et notamment l'aide publique au développement est soumise à cela. Donc oui, c'est un peu inquiétant du point de vue des pays en développement et en besoin de cette aide publique. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut noter, c'est que les émergents sont de plus en plus disponibles à aider et à participer au financement international. C'est très frappant pour les pays du Golfe en ce moment. Il y a aussi de l'épargne dans les pays africains, par exemple, et elle commence d'être très élaborée. On a des progrès importants, par exemple, de l'Afrique, sur le financement. Désormais, on doit être occupé de s'aider soi-même et de se mobiliser soi-même. Mais vous avez des capacités de rebond de l'Afrique avec ses propres instruments. Et ce sont ces banques-là qui sont pas très loin du G20 et qui vont d'ailleurs bénéficier du fait qu'un certain nombre de membres des deux conférences vont travailler ensemble. Si vous voulez, là, c'est un peu la capitale financière du monde, hein, le Cap aujourd'hui.
Voilà l'ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 23h45 à Pointe-Noire et à Libreville, où la période de dépôt des candidatures pour la présidentielle gabonaise du 12 avril s'ouvre ce jeudi. Elle va durer cette période jusqu'au 8 mars. La participation du chef de la transition, le général Oligui Nguema, est attendue. Reste à savoir qui va le défier, François Mazé.
Seules des personnalités de second ordre, voire inconnues, ont jusque-là formellement annoncé leur intention de participer au scrutin du 12 avril. Reste à voir si elles iront au bout du processus et notamment si elles pourront rassembler la caution de 30 millions de francs demandée par le code électoral. Beaucoup attendent la déclaration du général Brice Clotaire-Oligui Nguema pour se positionner. Ce devrait être la semaine prochaine. Si le chef de la transition se présentera en indépendant, il bénéficiera d'un vaste éventail de soutien de partis politiques et d'associations montée pour l'occasion. La machine de l'ex-formation au pouvoir PDG devrait se mettre à son service. Un avantage indéniable, mais qui crispe de très nombreux Gabonais. Face à lui devrait se trouver le dernier chef de gouvernement d'Ali Bongo, Alain-Claude Bilibinzé, qui enchaîne les déplacements en province ces dernières semaines. L'ex-vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou assure qu'il déposera son dossier, bien qu'il a dépassé la limite d'âge de 70 ans fixée par la nouvelle constitution. Candidat unique de l'opposition en 2023, Albert Ondo-Ossa ne s'est pas encore prononcé. La participation de personnalités comme le syndicaliste Jean-Rémi Yama ou Michel Ondegondou pourrait venir pimenter la course.
En bref, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est attendu en Somalie ce jeudi. C'est une nouvelle étape importante pour mettre fin à des mois de tensions entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique. Les relations entre les deux pays se sont crispées en janvier 2024 après la signature par Addis Abeba d'un accord avec la région séparatiste du Somaliland. Accord prévoyant l'utilisation par l'Éthiopie de 20 km de côte du Somaliland qui a unilatéralement proclamé son indépendance de la Somalie. C'était en 1991. Le cinéma et le FESPACO 2025, le Burkina en course pour les talons d'or de Yenanga. C'est la plus haute distinction du Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou. Dans la catégorie fiction, long métrage, deux réalisateurs burkinabés sont en lice. Dany Kouyaté avec son film Katanga, La danse des scorpions, un film inspiré de la tragédie de Macbeth de William Shakespeare. Et Chloé Aïcha Borot avec Les Invertueuses. Ces œuvres font partie des 17 longs métrages en compétition pour l'étalon d'or, le plus prestigieux donc des prix qui sera décerné samedi prochain. Frédéric Gara.
Katanga, la danse des scorpions du réalisateur burkinabé Dany Kouyaté nous plonge dans les coulisses du pouvoir politique. C'est en fait un condensé de trahison, de jalousie, de complot, d'une quête frénétique vers le pouvoir et de révolte des peuples. Le parti pris esthétique du réalisateur est de tourner en noir et blanc. Dany Kouyaté estime que c'est un conte politique qui explique comment le pouvoir peut rendre fou. Une fois qu'on a le pouvoir, parfois on perd facilement le contact avec le sol, regrette-t-il. Un regret qui a dû être partagé par les festivaliers, puisque pour les deux premières projections, Katanga, la danse des scorpions, a fait sale comble. Autre film burkinabé en lice pour l'étalon d'or de Yenanga, Les Invertueuses, premier long métrage de la réalisatrice Aïcha Chloé Borot. Dans son film, elle aborde la question épineuse de l'autodétermination et de la liberté des femmes dans un contexte de radicalisation et de guerre. Avec ses deux compétiteurs, les Burkinabés espèrent remporter l'étalon d'or 28 ans après le sacre de Gaston Caboret avec son film Boudiam.
Et partons au Cameroun à présent où l'affaire Parfait Djoméni ébranle le football local. Il s'agit du gardien de but de Victoria United de Limbé. Le joueur aurait été séquestré et aurait subi des sévices pendant 3 jours par son club avant d'être libéré. Sa formation lui reprocherait d'avoir truqué plusieurs matchs et parié sur les rencontres de son équipe. Les précisions de notre correspondant Joël Wadem.
Les ennuis de Parfait Djoméni auraient débuté après 4 défaites consécutives du champion du Cameroun en titre. Soupçonné par le président de Victoria United de truquer les matchs à travers les paris sportifs, le gardien de 19 ans est mis de côté. Un choix qui va s'avérer gagnant, puisque la formation de Limbé remporte sa rencontre suivante face à l'Union sportive de Douala. Dès lors, le portier principal va disparaître du centre d'hébergement du club. C'est après un appel de détresse que sa maman le retrouve 3 jours plus tard dans les bureaux du président de Popo. Elle a raconté à Radio Equinox dans quel état se trouvait son fils.
J'ai trouvé mon fils triste. Il n'était pas bien psychologiquement. J'ai descendu le pantalon de mon fils, il s'est baissé. Il avait des sacs de fouet. Quand j'ai voulu sortir mon appareil pour filmer, les dirigeants sont sortis de partout. Tu ne m'as pas dit pourquoi on retient mon fils prisonnier à Victoria et qu'on le tape, on ne sait qu'est-ce qu'il accepte, ce qu'il n'a pas fait. Je suis allé au commissariat central de Limbé. J'ai fait une déposition là-bas.
L'affaire choque l'opinion et fait la une des médias et des réseaux sociaux. Dans un communiqué, Victoria Unalter nie les allégations de torture de son gardien principal. Le syndicat des footballeurs et la gendarmerie sont saisis par la famille. Finalement, Parfait Njomini a été libéré hier soir et il est depuis lors auprès de sa famille. À Douala. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Afrique Éco nous emmène en Tunisie où les entrepreneurs ont encore du mal à se remettre de la pandémie de Covid. Beaucoup subissent les effets de l'inflation à 7% et de la permacrise économique. 200 000 sociétés étaient en difficulté financière en 2023 selon l'Association tunisienne des petites et moyennes entreprises. Et certaines ont une durée de vie qui ne dure pas plus d'un an et demi. Et l'année 2024 n'a pas été meilleure. C'est un reportage de Lydia Blaise à Tunis.
Dans son restaurant de street food El Koucha, dans le quartier de Menza 5 à Tunis, Emna Medguiche a l'air soucieux. Malgré le succès de son commerce, elle doit s'adapter chaque jour à la hausse des prix des denrées alimentaires.
Malheureusement, les 2 dernières années ont été particulièrement difficiles parce qu'on fait face à une inflation à 2 chiffres sur certaines matières. Je dirais que la dernière en date qui nous a mis vraiment en difficulté, c'est l'approvisionnement en volaille depuis l'été dernier et l'inflation des prix de volaille. Parce que, en gros, en Tunisie, ce qu'on faisait avant, c'est le prix bas de la volaille permet d'équilibrer les coûts de manière plus globale.
Jambes aussi. Ouais. Ok.
Le prix moyen de la volaille a augmenté de près de 19% entre 2023 et 2024. Emna a dû réduire ses marges et fait aussi face aux autres conséquences de la crise économique.
La première, c'est la hausse des matières premières. La deuxième, c'est la main-d'œuvre qualifiée qui est en train de partir dans des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Maroc qui se prépare pour la Coupe du Monde, la France, l'Europe. C'est une grosse difficulté. Et la troisième, c'est la baisse de pouvoir d'achat.
Si Emna parvient à se maintenir à flot, d'autres ont dû prendre des mesures drastiques. Catherine Fournier, franco-tunisienne, dirige une petite entreprise dans le secteur des ressources humaines. Elle a subi une baisse d'activité car beaucoup d'entreprises ont coupé les budgets en matière d'externalisation du recrutement.
Moi, mon choix, ça a été notamment, par exemple, de passer en coworking space au lieu de garder un local en propre pour diminuer les charges. Ça, c'était le premier réflexe. Et puis, bon, bah, après, c'est effectivement de continuer d'essayer de faire de la croissance en développement au niveau commercial. Et puis d'essayer de créer peut-être plus de dynamique, de partenariat.
Comme Emna, malgré un réseau professionnel développé, elle se sent à l'écart des systèmes de soutien financier.
Je ne dis pas qu'il faut nous passer certaines choses, ce n'est pas du tout le cas. On doit payer des impôts comme tout le monde, c'est normal. Mais peut-être que si on était un peu mieux traité et qu'on avait des systèmes un petit peu plus souples, ça nous aiderait à créer de la trésorerie. Parce que finalement, une TPE, voilà, c'est, on est toujours des sociétés de services et le cœur du problème, c'est la trésorerie.
Beaucoup ne peuvent plus répondre aux exigences en termes de garanties et donc n'arrivent plus à trouver des financements. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Et c'est le moment de retrouver Pierre Vallée pour notre rendez-vous musique. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous.
Et on parle ce soir d'une chanteuse ghanéenne.
Oui, Florence Adouni, une chanteuse, une jeune chanteuse qui a la particularité d'avoir des parents frafra, c'est une ethnie du nord du Ghana, mais elle est née à Kumasi, dans le sud du pays, au royaume des Ashanti. Et c'est à noter parce que ce sont des cultures qui sont assez différentes et Florence Adouni va se nourrir des deux traditions. Elle apprend à chanter à l'église et très vite se fait remarquer pour ses qualités vocales. Il faut dire qu'elle chante tout le temps, ce qui exaspère ses professeurs, jusqu'à ce que l'un d'entre eux lui propose de l'emmener en studio pour enregistrer un morceau. Et là, non seulement elle se fait remarquer par les professionnels, mais en plus, le morceau qu'ils enregistrent, qui ne devait être qu'un coup d'essai, connaît en fait un véritable succès au Ghana.
Alors c'est ainsi que sa carrière se lance, mais dans cette histoire, Pierre, il y a un deuxième personnage, et il est important.
Oui, il s'agit de Max Weissenfeld, un musicien et producteur allemand, qui lui aussi se fait fait assez vite remarquer pour ses qualités de musicien. Et puis surtout, il est du genre à s'impliquer à fond dans tout ce qu'il fait. Et avec son frère, il monte plusieurs groupes, dont The Whitfield Brothers, qui lui vaudra la reconnaissance et des contrats avec plusieurs labels américains. Mais Max a besoin de nouveaux horizons et décide d'étudier les polyrythmiques ghanéennes. Il s'installe donc à Accra et à son retour à Berlin, il fonde le label Philophon sur lequel il signe plusieurs artistes ghanéens.
De l'histoire, Pierre, hein. C'est qu'inévitablement Florence Adoni et Max Weissenfeld finissent par se rencontrer.
Oui, à Accra, où Max a ouvert une branche de son label, et assez naturellement, ils décident de travailler ensemble sur un premier morceau. Et là, l'histoire se répète parce que le morceau connaît un succès assez inespéré, en tout cas qui va bien au-delà de ce qu'ils attendaient. Et cette performance va propulser Florence Adoni et son groupe sur les scènes européennes avec une tournée de plus de 70 dates, ce qui était assez inimaginable pour un groupe qui jusque-là n'était jamais sorti du Ghana. La collaboration entre les deux, Max et Florence, devient alors évidente et ils enregistrent un album, An Ordinary Exercise in Unity, cet album qui sort ce vendredi et dont voici un nouvel extrait, Vocalize My Love.
Vocalize My Love, c'est la ghanéenne Florence Adoni. C'était le choix et le coup de cœur de Pierre Vallée ce soir pour clore et refermer cette dernière édition d'Afrique Soir. Merci à toute l'équipe, à la réalisation de Jonathan Brady. Restez à l'écoute, l'info revient bientôt sur la radio du monde. Bonne fin de soirée à vous.
Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain. Hey.
Journée mondiale des maladies rares, les atteintes dermatologiques.
Vendredi.
Émission Questions de femmes, l'anémie, la dépister, la prendre en charge.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 71 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Témoin d'actu, le podcast d'info de RFI. Alexandra Cagnard.
Entre décembre 2024 et janvier 2025, Ahmed al-Shara est passé de figure montante à président de la transition en Syrie. Un pays qui s'ouvre à nouveau après des années d'isolement. De retour de reportage, Guilhem Deltaï nous raconte cette mutation entre espoir et défi.
Témoin d'actu avec Alexandra Cagnard, tous les samedis à 19h41 sur RFI et en podcast sur RFI.fr.